Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces personnes avec lesquelles je ne pourrais, de toute évidence, pas être amie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Si vous me suivez sur Instagram, je vous propose assez régulièrement des sondages où je vous demande de choisir quel sera le thème de l'épisode suivant. Alors, ce qui est adorable, c'est que je reçois très souvent des messages qui me disent « Ah, mais je crois que parmi les quatre que t'as mis, moi j'ai vraiment envie que les quatre voient le jour. » Je ne voudrais pas vous gâcher la surprise des prochains épisodes, mais dites-vous bien que quand je vous propose quatre thèmes, ces quatre thèmes, je prévois de les aborder dans de futurs épisodes. C'est juste une façon de vous demander lequel vous souhaitez écouter en priorité. Et là, le verdict était, sans appel, vous aviez très envie d'écouter cet épisode. On ne peut pas être amis si, une idée que je n'ai absolument pas inventée. C'est un épisode que j'ai entendu sur le podcast d'Anna, Anna RVR. J'ai adoré cet épisode. Et c'est quelque chose que je voulais vous dire. D'ailleurs, il n'y a absolument aucune honte à s'inspirer d'autres personnes. Alors, je ne copie pas le contenu d'Anna, à part que ces deux épisodes vont avoir le même titre, puisque je ne peux pas trouver un autre titre pour cette thématique. Mais dans ce milieu, on est toujours un peu gêné de copier, plagier, s'inspirer, etc. Alors moi, j'ai rien inventé. Et je pense que dans ce milieu, on est très peu à inventer réellement des choses dès le départ. Mais on est très nombreux à s'inspirer. Et je pense qu'il n'y a aucun mal à dire de qui on s'inspire pour peu qu'on cite ladite personne. Donc voilà, je vous annonce que cet épisode, je l'ai entendu sur le podcast d'Anna qui s'appelle Contre-soirée, qui est un podcast que j'adore, que j'aurais souhaité écouter lorsque j'étais plus jeune. Parce qu'Anna donne énormément de très très beaux conseils tout en étant honnête, vraie, juste et très inspirante pour un public plus jeune et même pour un public plus âgé puisque je dois avoir 10 ou 15 ans de plus qu'elle et que j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter ce qu'elle raconte. Alors dans cet épisode, je vais vous parler donc des traits de caractère, des traits de personnalité que je ne supporte pas dans mon entourage, c'est-à-dire au niveau de mes amis. Il y a certains traits de caractère qui sont complètement rédhibitoires, je pense que c'est ceux que je vais aborder à la fin de cet épisode, mais je vais commencer tout d'abord par les personnalités ou les petites façons de faire qui m'agacent un petit peu, qui vont pas me faire rompre une amitié pour si peu. Mais voilà, des choses que j'aime pas forcément voir chez les autres et qui peuvent me faire m'éloigner d'une personne si voilà, ce trait de caractère, ce trait de personnalité est trop présent ou trop récurrent. Premièrement, on ne peut pas être ami si tu es toujours en retard. Donc je vous ai dit qu'on commençait par des choses un petit peu légères, mais je suis quelqu'un qui est extrêmement ponctuel, je l'ai toujours été. C'est dans ma nature, ça a été aussi accru par le travail que j'ai exercé pendant plus de 10 ans. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai été infirmière. C'est mon premier métier, ce sont mes études qui m'ont menée à ce métier, et c'est un métier dans lequel on ne peut de toute évidence pas être en retard, puisque pour qu'une infirmière soit présente 24 heures auprès d'un patient, il faut tout simplement que 3 personnes en 8 heures ou que 2 personnes en 12 heures se succèdent. Si vous êtes en retard, vous mettez l'intégralité du service dans la mouise et vous allez empêcher votre collègue de partir à l'heure. Donc c'est un manque de respect total, autant auprès des patients que des soignants. Donc je n'ai jamais pu cultiver une forme de retard. Alors je vous garantis que dans le métier, il y a quand même des gens qui chroniquement sont en retard. C'est assez surprenant, mais ça existe. Moi du coup, quelqu'un qui m'impose régulièrement vraiment son retard, et d'autant plus un retard très important de plus de 10, 15, 20 minutes, ça me donne l'illusion que c'est une personne pour laquelle je ne suis pas importante. et c'est quelqu'un qui ne fait pas de moi sa priorité. Alors le terme est assez fort, je ne demande pas d'être la priorité de chaque personne dans la journée qu'on va partager, au moment de la journée qu'on va partager ensemble, mais si vraiment il n'y a aucun effort de fait pour qu'on se retrouve à une heure donnée, à un rendez-vous donné, à un lieu donné, je ne parle pas bien sûr de problématiques d'embouteillage ou même d'imprévu de dernière minute, mais si vraiment le retard est chronique, moi c'est quelque chose qui m'agace profondément. Si vous me suivez sur YouTube, je sais que plusieurs fois de suite, j'ai fait allusion à des périodes où j'étais en retard, et dites-vous que même quand j'ai l'impression d'être en retard, j'ai pu notamment en parler dans certains vlogs, quand j'ai l'impression d'être en retard, je finis même par être à l'heure. C'est-à-dire que j'ai tellement l'habitude d'être en avance partout, que pour moi le retard est souvent synonyme de juste être à l'heure. Deuxièmement, on ne peut pas être ami si tu t'écoutes parler. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui font des grandes théories pour pas grand chose, qui ont une façon de parler qui n'est pas naturelle, qui sont extrêmement vigilants à la façon dont ils vont employer les mots parce qu'ils veulent toujours que ça paraisse plus pompeux que ce qu'ils ont envie de dire. J'aime pas les monologues, c'est quelque chose que je déplore dans certaines relations sociales. Je vais vous balancer un truc, je vais pas te donner son nom, mais j'ai rencontré il y a quelques années une blogueuse, influenceuse, que je suivais depuis longtemps, avec laquelle j'étais persuadée de bien m'entendre, et puis il se trouve qu'on s'est, on s'est rencontrés... un jour, on était au même endroit, bon bref, et je pensais qu'on avait plein de choses en commun, et écoutez, j'ai vécu un monologue pendant plus d'une heure, c'est-à-dire que je posais des questions à cette personne sans qu'à un seul instant, elle réponde « Et toi ?» et toi, de ton côté ?» Voilà, un dialogue, c'est avant tout poser des questions. Je sais pas si une copine vous dit « Tu pars où en vacances cet été ?» Ben, répondez à la question, et la première étape, c'est de dire « Et toi, où est-ce que tu pars en vacances cet été ?» Et j'ai vécu un monologue d'une longueur incroyable, ce qui fait que je vais tout simplement pas réussir à être amie avec cette personne, sachant qu'en virtuel, ça ne me choquait pas, mais qu'en réalité, c'était complètement saisissant. Donc les personnes qui sont jamais dans l'échange, qui sont dans une diarrhée verbale, une logorée, j'adore ce mot, qui vont déballer leur vie sans jamais rebondir, sans jamais vous renvoyer la question, et qui vont surtout prendre un langage hyper pompeux pour pas dire grand-chose, moi c'est quelque chose qui me lasse complètement. Si on n'arrive pas à être naturel avec moi, franchement je pense que je passe mon chemin. On ne peut pas être ami si je ne peux pas être naturel avec toi. Ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté au fil des années, qui est quelque chose d'encore plus prégnant aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. Je pense que quand j'étais adolescente, jeune adulte, ça me choquait pas encore, mais... je pense qu'on l'a tous expérimenté, il y a des personnes avec lesquelles vous n'allez jamais pouvoir être réellement naturel. Vous n'allez pas pouvoir montrer votre vraie personnalité, vos vrais traits de caractère. Moi par exemple, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup la dérision. Quand je raconte une histoire, je prends les voix des personnages, je fais des gestes, etc. J'ai toujours été très vive, spontanée de ce côté-là. Et si avec une personne, je ne peux pas être complètement moi, je pense qu'il y a un immense truc qui s'éclaire au-dessus de sa tête et qui me fait dire que si j'arrive pas à être naturel avec cette personne, il faut que l'amitié s'arrête là. Si vous réfléchissez bien, vous n'allez jamais pouvoir réussir à être complètement naturel avec tout le monde. Et pour moi, c'est vraiment une caractéristique sur laquelle il faut s'appuyer, à laquelle il faut vraiment réfléchir. Si vous ne pouvez pas réellement faire briller votre personnalité à 100%, si vous êtes toujours en train de réfléchir au sens de vos phrases, à l'impact qu'elles vont avoir, à la façon dont vous devez vous comporter, vous exprimer, moi ça me fait dire que c'est pas forcément une amitié qui vaut le coup parce que vous allez toujours être dans le contrôle et c'est quelque chose d'hyper désagréable quand on est justement dans une relation d'amitié. On ne peut pas être ami si tu m'admires. Alors, je vais un peu détailler ce point-là. Moi, le fait qu'on m'admire ou qu'on me trouve complètement épatante est quelque chose qui me gêne énormément parce que, selon moi, il n'y a rien de ce que je fais qui est admirable. Si on est toujours en train de vanter mes louanges, en train de saluer mes efforts ou autre, c'est un truc qui va me faire plaisir 2 minutes, mais qui très vite va me gêner et va me rendre complètement coincée et je vais jamais réussir à m'en défaire. Alors, ça veut pas dire que j'apprécie pas un compliment de temps en temps, mais... personnellement, j'ai toujours déjà eu un peu de mal à recevoir les compliments. Je sais pas vraiment pour quelle raison, j'ai jamais vraiment creusé ce truc-là. Mais s'il y a ce côté où on me place sur un piédestal et que tout ce que je fais se transforme en or et que les gens trouvent ça absolument fascinant, ça me dérange un petit peu. Dans une amitié, j'ai envie que les choses soient simples. J'ai envie qu'on s'apprécie pour ce qu'on fait et pas forcément pour les choses incroyables qu'on accomplit tous les jours. Et puis je vais tirer un petit peu le trait, mais s'il y a toujours un peu ce côté admiration... moi ça me fait penser qu'on arrive un peu dans un côté un peu gourou et ça me plaît pas du tout, donc j'ai envie d'avoir une relation amicale toute simple et sûrement pas d'avoir ce côté où on est toujours un peu en train de, voilà, de me mettre sur un piédestal et de me regarder d'en bas. Alors maintenant on va attaquer le dur, on va rentrer vraiment dans les sujets pour lesquels je vais avoir vraiment beaucoup de mal, voire je ne vais pas réussir à construire une amitié. Alors on ne peut pas être ami si tu es complotiste. Autant vous dire que ces 3 dernières années j'ai fait énormément de tri dans mes fréquentations, et pas tant dans mes fréquentations, aussi dans les personnes que je suivais, notamment sur Instagram. Je crois que depuis 2020, je n'ai jamais opéré un tri aussi drastique que dans mes abonnements Instagram, par exemple. Je sais pas combien de personnes je suivais, mais dès que je voyais un côté un peu complotiste, anti-vax. Je vous garantis que j'ai jamais aussi vite cliqué sur le bouton se désabonner, parce que moi c'est des choses que je ne conçois pas. Et on pourrait se dire que par exemple on peut être ami avec quelqu'un qui a pas les mêmes opinions politiques que soi. J'ai pas souhaité aborder ce sujet-là dans cet épisode parce que il y a vraiment deux sujets dont je tiens pas vraiment à parler sur ce podcast et sur mes différents réseaux sociaux en général. C'est un, la politique, et deux, la religion. Je veux bien l'aborder de façon assez large, mais pas forcément en profondeur. Mais le complotisme, pour moi, c'est plus qu'une opinion politique, c'est vraiment un truc qui va guider tes pensées au quotidien, ta façon de consommer l'actualité, ta façon de te comporter avec les autres, et c'est quelque chose que je tolère absolument pas. Donc autant vous dire que ces trois dernières années, j'ai été plutôt servie, notamment pendant la toute première vague du Covid, où moi j'étais dans le dur, puisqu'en tant qu'infirmière, je peux vous dire qu'on a vécu ça de très près, même si j'étais pas forcément concernée par le fait que j'étais pas dans un service Covid, etc. La difficulté de la prise en charge de ces malades, le fait qu'on avançait un petit peu à l'aveugle, l'arrivée des vaccins qui étaient très attendus de la part du monde médical, etc. Moi, ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont cru justement que le complotisme allait se cantonner notamment aux vaccins contre le Covid, et puis en fait c'est plus que ça, c'est la guerre en Ukraine, ça peut concerner aussi des théories par exemple sur le 11 septembre, je vais pas toutes les aborder dans cet épisode, mais voilà, pour vous donner un peu une idée de certains messages qui peuvent être véhiculés par certaines personnes, et moi du malaise dans lequel ça me plonge. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un biais cognitif qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Alors je suis allée faire mes recherches, hein, ne croyez pas que j'ai réussi à retenir ce nom de tête. Ce biais cognitif est également appelé le biais de surconfiance. C'est un biais par lequel les moins qualifiés dans un domaine pourraient surestimer leurs compétences. En gros, je vous le résume, mais quand on se renseigne à fond, ou en tout cas qu'on a l'impression qu'on se renseigne à fond sur un sujet, on a très rapidement l'impression d'en connaître beaucoup plus que certaines personnes, et donc beaucoup plus que certaines personnes qui sont notamment très qualifiées pour parler du sujet. Alors dans le cas du Covid, je vous fais pas un dessin, mais je pense que vous l'avez assez vu. Moi, j'ai déploré notamment le fait qu'on invitait sur des plateaux télé des personnes qui n'avaient jamais fait d'études scientifiques, qui n'avaient aucune légitimité à parler de sujets aussi peu sérieux. On a entendu des horreurs, on a entendu des choses tellement, tellement fausses, comme quoi le vaccin avait été sorti en 2 jours, mais bon, voilà, le coronavirus, ça faisait pas 2 jours qu'il était dans les laboratoires. Enfin bref, je suis hyper remontée contre le sujet, donc je pense que je vais m'arrêter là, mais ça vous donne un peu une idée de, moi, la façon dont j'ai pu faire du tri. Alors, dans mon entourage proche, j'ai pas vraiment, enfin je crois que j'ai même pas de personnes complotistes, donc j'ai pas réellement eu besoin de faire un tri auprès de ma famille ou de mes amis, mais voilà, notamment dans des personnalités publiques que je suivais sur Instagram, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur certaines personnes en me disant « mais c'est pas possible de balancer des infos pareilles, surtout quand on est suivi par une grande communauté ». Moi je fais quand même assez attention à ce que je partage en me disant que j'ai quand même 60 000 personnes sur Instagram qui consomment mes contenus, bien plus quand les contenus deviennent viraux. Je suis suivie par des personnes qui sont plus jeunes que moi, qui peuvent être un peu plus crédules, un peu plus naïves. Donc il faut vraiment être vigilant à la façon dont on s'adresse à ces personnes et à la façon dont on aborde les fameux sujets dont je vous parlais. J'aurais pu en faire un épisode complet, mais voilà, le complotisme et moi, on est vraiment pas copains. Ensuite, on ne peut pas être ami si tu tailles toujours tout le monde dans leur dos. Vous la connaissez, hein, cette copine, je dis copine, mais ça peut être ce copain, qui, dès qu'il vous croise, va prendre chacune des personnes que vous avez en commun avec elle, et qui va, une à une, détailler leurs derniers faits et gestes, leur casser du sucre sur le dos pour une raison X ou Y, qui va ne faire que propager des ragots, qui va les critiquer sans cesse à vos côtés. Je vais peut-être vous ouvrir les yeux par le biais de cet épisode, mais dites-vous bien que lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un qui taille toujours tout le monde dans leur dos à vos côtés, il fait exactement la même chose à votre sujet quand il est avec ces fameuses personnes. Je crois que c'est quelque chose dont je me rendais pas trop compte quand j'étais à nouveau ado, jeune adulte, etc. Mais aujourd'hui, ça m'ouvre les yeux. Quelqu'un qui est toujours extrêmement critique concernant certaines personnes va faire exactement la même chose avec vous dans votre dos. Et le dernier point que je voulais aborder et qui est très important pour moi, on ne peut pas être ami si tu ne respectes pas les vendeurs, les serveurs, les agents d'entretien, ce genre de personnes avec lesquelles on interagit à peu près tous les jours et qui sont globalement toujours assez mal considérées. Ça, c'est un énorme red flag pour moi. Je vous jure, quand je vois ça avec quelqu'un, mais j'ai vraiment un truc qui s'éclaire dans ma tête et qui me dit « non mais là ça va pas être possible ». On va boire un café dans un resto, tu dis jamais bonjour, tu dis jamais s'il vous plaît, tu râles toujours, t'es très condescendant. Je prends l'exemple des personnes qui sont dans le domaine du service, de l'aide à la personne, parce que ce sont globalement des personnes que je trouve toujours extrêmement mal considérées, pour lesquelles on a très très peu de respect, et moi je fais toujours très attention justement à valoriser ces personnes, à leur mettre un petit mot en plus, un regard, une attention, quelque chose pour les valoriser, parce que ce sont souvent des personnes qui sont sous-payées, mal payées, avec des contrats précaires, qui gèrent des horaires de travail pas croyables. Je vous donne l'exemple de la restauration, les soins à la personne, c'est exactement la même chose, on travaille les week-ends, les jours fériés, on travaille tard le soir, tôt le matin, on travaille la nuit, etc. Si vous n'arrivez pas à être respectueux avec ces personnes-là, sous prétexte qu'elles n'ont pas un doctorat en astrophysique, sous prétexte qu'elles n'occupent pas un poste prestigieux à vos yeux, oh, alors moi c'est franchement un truc qui me... Mais franchement, qui peut me faire complètement arrêter une relation amicale. Alors on pourrait se dire que même si on a l'impression de vraiment bien connaître quelqu'un, on pourrait pas être déçu en le voyant dans cette sphère-là, mais je vous garantis que c'est faux. Il y a des personnes qui sont capables d'avoir un abord très amical, très chaleureux avec vous, qui vont vous considérer, vous apporter de l'attention, etc. Et puis quand vous les voyez justement dans ces sphères du quotidien, à la poste pour aller chercher un recommandé, quand elles entrent dans le hall d'un immeuble et qu'il y a quelqu'un, notamment un agent d'entretien, qui est en train de nettoyer le sol et qu'elles marchent très grossièrement avec leurs chaussures sur le sol, vous les voyez ces personnes-là? Pour moi, ça révèle un énorme problème d'éducation, de considération de l'autre. J'ai travaillé avec un médecin il y a très longtemps qui, quand il rentrait dans la salle de soins et qu'il voyait que les agents de service hospitalier étaient en train de nettoyer le sol, il enlevait ses chaussures à l'entrée de la pièce pour marcher en chaussettes pour ne pas salir le sol. Tout le monde était en extase devant ce médecin en disant « mais c'est fabuleux, mais incroyable, vous vous rendez compte le regard qu'il a, cet altruisme qu'il a, etc. » En réalité, si on dézoome un petit peu sur cette situation, il y a quand même rien d'incroyable. Marcher sur un sol volontairement avec ses chaussures sales alors qu'il vient d'être nettoyé, c'est odieux comme comportement. Alors on entend bien que dans le secteur de la santé, on peut pas toujours se permettre d'attendre que le sol en question sèche. Mais du coup, le fait de retirer ses chaussures et de marcher avec ses chaussettes, c'est quand même pas un effort surhumain. Et bah dites-vous bien qu'à l'époque, cet homme, il était extrêmement respecté parce que c'était globalement le seul médecin à faire cet effort-là. Si vous allez dans un restaurant avec quelqu'un, qu'on lui sert le mauvais plat ou la mauvaise boisson à table et que vous la voyez se comporter de façon extrêmement agressive avec le serveur, pareil, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'éclaire dans votre cerveau. C'est pas normal de si mal parler à quelqu'un. L'erreur, elle est humaine. On peut tout à fait dire au serveur, écoutez, je suis désolée, j'ai pas commandé ce plat-là, il y a une erreur. Je crois qu'on n'a jamais vu un serveur jeter le plat à la figure du client en lui disant, bah écoutez, c'est comme ça, vous allez le manger, il y a une erreur et tant pis, faites avec. Non, dans 99,9% des cas, le plat, il va être renvoyé en cuisine, il va être modifié. Je vous invite à observer le comportement des personnes qui vous entourent auprès justement de ce public-là. Je pense que vous allez être surpris de la façon dont certains s'adressent à ce public-là, et pour ma part, je pense que c'est hyper, hyper révélateur. Quand j'ai parlé de l'éventualité de réaliser cet épisode sur Instagram, il y a plusieurs d'entre vous qui ont cru que j'allais parler de l'homéopathie ou encore de l'astrologie, qui sont voilà, deux choses auxquelles je ne crois absolument pas. Alors on va dire que c'est un petit peu les points bonus, mais je pense que je vous en parlerai dans un autre épisode, ça fera l'objet voilà, d'une nouvelle discussion. Ça va pas m'empêcher d'être amie avec vous si vous avez une fascination pour l'homéopathie, pour les sciences occultes. Alors pour peu qu'on n'arrive pas dans des notions de charlatanisme ou voilà, tout ce qui est un peu anti-vax, fake med, etc. Idem pour l'astrologie, je pense que ça va pas m'empêcher d'être amie avec vous, mais je pense que ça sera quelque chose dont on pourra parler dans un prochain épisode. Moralité, moi je trouve que j'ai vraiment subi, et j'ai vraiment envie de choisir ce terme, des amitiés dans lesquelles j'étais pas tout à fait confortable, parce que je pouvais pas réellement me comporter comme je le souhaitais, parce que j'étais toujours un petit peu dans le contrôle, et j'ai envie de vous dire que la vie est trop courte et qu'il vaut mieux s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, pas forcément des gens qui vous ressemblent, parce que moi je suis amie avec des personnes qui sont très 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 différentes de moi, mais au fond on a quand même des valeurs communes et c'est ça qui est intéressant, et je pense que c'est sur ça qu'il faut vraiment faire reposer ses amitiés. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram, mon compte c'est tout simplement @leblogdeNeroli, en me disant pour vous quels seraient vraiment les traits de caractère ou les faits rédhibitoires qui vous empêcheraient d'être amis avec quelqu'un. Merci pour vos nombreuses écoutes, on a passé la barre des 80 000 écoutes depuis la sortie de ce podcast, je trouve ça absolument fascinant, sachant qu'il y a quelques jours en arrière, Spotify a lancé son Spotify Wrapped, c'est quelque chose qu'il lance à chaque fin d'année, qui vous permet en tant qu'utilisateur de faire un peu le point sur votre consommation de musique, de podcast, etc. Et j'ai été hyper surprise que Moralité soit présent dans beaucoup beaucoup de vos top 5 podcasts, sachant que Moralité existe depuis tout début septembre, donc ça fait à peine 3 mois que le podcast existe et il est déjà dans votre top 5 d'écoute. Je suis hyper flattée, je suis hyper touchée, j'avais même les larmes aux yeux hier en regardant mon téléphone, en voyant vos différentes stories, c'est juste trop émouvant, donc merci beaucoup pour votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing board or Miro board?
Drawing board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again. Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.